ces moines gaulois vont s'inquiéter justement du danger de prédestination qui est sous-jacent à la position d'Augustin si on la pousse à bout. Et Prosper d'Aquitaine va en informer Augustin en lui demandant de répondre justement à ces suspicions qu'avaient les moines gaulois, répondre à leurs interrogations, à leurs inquiétudes. Et justement, il va y répondre dans deux petits opuscules qui sont le De Predestinatione Sanctorum et le De Dono Perseverentiae, le don de la persévérance. Alors, il explique que la prédestination n'est pas une décision préalable de Dieu excluant la liberté humaine. Et la discussion aboutira à ce qu'on appelle les controverses semi-pélagianistes qui sont du siècle suivant. L'idée d'Augustin, c'est que la liberté divine est intérieure à la liberté humaine. Alors, il explique ça dans le De Dono Perseverentiae, il dit « Ainsi nous voulons, mais Dieu fait que nous voulions. Et nous agissons, mais c'est également Dieu qui agit en nous, cet agir. » Et, autrement dit, il y a une sorte d'intériorité de Dieu dans ma volonté. Je veux, mais c'est Dieu qui a voulu en moi. Évidemment, la question que vont dire si je ne veux pas, c'est que Dieu n'a pas voulu en moi. Alors, ça renvoie encore la question de la prédestination. Ou alors, d'autres diront, il a voulu, mais par ma liberté, je n'ai pas voulu ce qu'il a voulu. Mais d'autres diront, donc entre la grâce, c'est la grâce suffisante. C'est suffisant pour bien agir, mais j'ai pas bien agi. Et il y a la grâce efficace, donc la grâce efficace qui fait que je voudrais ce qu'il a voulu. Alors, vous allez me dire, c'est un peu injuste. Hein. S'il y en a un qui a la grâce efficace et l'autre qui a la grâce simplement suffisante, celui qui a la grâce suffisante, il a plus de mérite, certes, mais enfin, il y a aussi plus de risques. Bon, je peux vous dire que ça a noirci des tonnes de papier pendant le XVIe et le XVIIe siècle, et qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse. Pour moi, c'est la question la plus dure de toute la théologie.
Et que les puritains américains, quand ils sont partis d'Europe, ils sont arrivés là-bas et ils sont décédés toujours très inquiets.
Oui. Il y a même eu les Quakers, une sous-distinction des puritains, ce sont les Quakers. C'est ceux qui tremblent, les trembleurs. C'est ça. Ils tremblent sous la peur du Dieu qui damne, qui prédestine à l'enfer. Et alors, attendez, vous avez les Quakers, qu'est-ce qu'il y a encore comme...
Ça sert à rien d'avoir peur en ce moment-là.
Oui, parce qu'on n'est pas ou pas peur. De toute manière, ça ne dépend pas de nous, alors. Mais c'est comme, vous voyez, Karl Barth, qui est un calviniste intelligent, mais calviniste quand même, il dit que l'on vit sous la parole de Dieu. Mais quand il dit ça, on a vraiment l'impression de l'épée de Damoclès. Hein. On vit sous la parole de Dieu, alors on a intérêt vraiment à la mettre en œuvre, hein, parce que sinon, elle nous tombe dessus et elle nous convainc de pécher. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu impressionnant. Alors, par exemple, aussi, dans les Confessions, il dit cette belle phrase qui sera reprise dans la préface immarcessible du propre de Paris, la couronne qui ne pourrit pas, là, la couronne immarcessible, et qui s'est même repris maintenant dans l'Église universelle, puisque avec la réforme liturgique de 69, La préface parisienne, elle est devenue la préface des saints pour toute l'Église. Alors, quand Dieu couronne nos mérites, il couronne ses propres dons. Ça, c'est magnifique. Hein. Tout Augustin est là. Et vous avez ça dans la préface, hein. Couronnant ses mérites, il couronne nos propres dons. Couronnant nos mérites, il couronne ses propres dons. Et c'est dans les Confessions, 9.34. Alors, comme dit Augustin, pourquoi certains ne persévèrent-ils pas? Pourquoi en eux la grâce n'est-elle pas efficace? Alors d'abord, il dira qu'on n'en sait rien parce qu'on n'est pas de l'autre côté du tribunal, et que Dieu est bien indéchiffrable dans sa miséricorde, mais pas injuste quand il condamne, car après tout, tous méritaient la condamnation. Alors ça, c'est Augustin qui dit, puisque toute la massa est damnata, du fait qu'on ait au moins un qui s'en tire, c'est déjà pas normal. Donc on peut s'extasier devant la miséricorde divine. Alors maintenant, la proportion, là encore, les théologiens sont amusés à sortir leur calculette, mais bon, on n'en sait pas grand-chose. Alors, on va s'arrêter là, et puis l'année prochaine, enfin en septembre, on verra les grandes œuvres de saint Augustin, les confessions, l'écriture sainte, l'Eucharistie, le Dottrina Christiana, etc. L'Enchiridion, alors c'est un, comme son nom l'indique, c'est un manuel, c'est un truc qui se tient dans la main, et c'est une sorte de petit, de résumé, une sorte de catéchisme. Oui, l'Enchiridion. Alors, je termine en vous lisant un passage de la des confessions que je vous avais pas lu la fois dernière, mais auquel j'avais fait allusion. C'est dans le livre 10e. Oui, oui. C'est 431, je crois bien.
430,
oui. Oui, c'est 430. Alors, il y a un passage qui est livre 10, chapitre 6, paragraphe 8, 9 et 10. Alors, ce que je sais de toute certitude de la conscience, Seigneur, c'est que je vous aime. Vous avez percé mon cœur de votre parole, et à l'instant je vous aimais. Le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent ne me disent-ils pas aussi de toutes parts qu'il faut que je vous aime? Et ils ne cessent de le dire aux hommes, afin qu'ils demeurent sans excuse, Romains 1:20. Mais le langage de votre miséricorde est plus intérieur en celui dont vous daignez avoir pitié et à qui il vous plaît de faire grâce. Autrement, le ciel et la terre racontent vos louanges à des sourds. Qu'aimais-je donc en vous aimant? Ce n'est point la beauté selon l'étendue, ni la gloire selon le temps, ni l'éclat de cette lumière amie à nos yeux, ni les douces mélodies du chant, ni la suave odorance des fleurs et des parfums, ni la manne, ni le miel, ni les délices de la volupté. Ce n'est pas là ce que j'aime en aimant mon Dieu. Et pourtant, j'aime une lumière, une mélodie, une odeur, un aliment, une volupté en aimant mon Dieu. Cette lumière, cette mélodie, cette odeur, cet aliment, cette volupté suivant l'homme intérieur, lumière, harmonie, senteur, saveur, amour de l'âme, qui défie les mérites, les limites de l'étendue et les mesures du temps et le souffle des vents et la dent de la faim et le dégoût de la jouissance. Voilà ce que j'aime en aimant mon Dieu. Alors vous voyez, l'idée d'Augustin, c'est qu'il y a un rapport entre les choses sensibles et les choses spirituelles, avec cette distinction que les choses sensibles nous rassasient et finalement nous dégoûtent. Vous vous souvenez que c'était l'inquiétude d'Origène vis-à-vis des choses spirituelles, la satiété, alors que les choses spirituelles, au contraire, n'ont pas de limite. Et vous vous souvenez de ce que disait Grégoire de Nyssa à propos de l'épectase, hein, donc de cette aspiration vers le haut, c'est-à-dire plus on reçoit spirituellement, plus on aspire à recevoir davantage, sans être jamais rassasié, voire dégoûté. Et alors, donc, il continue. Et qu'est-ce enfin ? J'ai interrogé la terre et elle m'a dit « ce n'est pas moi ». Et tout ce qu'elle porte m'a fait le même aveu. J'ai interrogé la mer et les abîmes et les êtres animés qui glissent sous les eaux et ils ont répondu « nous ne sommes pas ton Dieu, cherche au-dessus de nous ». J'ai interrogé les vents et l'air avec ses habitants, m'a dit de toutes parts « Anaximène se trompe, je ne suis pas Dieu ». Ça c'est un présocratique. J'interroge le ciel, le soleil, la lune, les étoiles et ils me répondent « nous ne sommes pas non plus le Dieu que tu cherches ». Et je dis enfin à tous les objets qui se pressent aux portes de mes sens « parlez-moi de mon Dieu, puisque vous ne l'êtes pas. Dites-moi de lui quelque chose. » Et il me crie d'une voix éclatante « c'est lui qui nous a fait. » La voix seule de mon désir interrogeait les créatures, et leur seule beauté était leur réponse. Et je me retournais vers moi-même, et je me suis dit « et toi, qu'es-tu ? » Et j'ai répondu « homme ». Et deux êtres sont sous mon obéissance, l'un extérieur, le corps, l'autre en moi est caché, l'âme. Auquel devais-je plutôt demander mon Dieu, vainement cherché, à travers le voile de mon corps, depuis la terre jusqu'au ciel, aussi loin que je puisse lancer en émissaire les rayons de mes yeux. Il valait mieux consulter l'être intérieur, car tous les envoyés des corps s'adressaient au tribunal de ce juge, mais son ouvrage... de ce juge secret des réponses du ciel et de la terre et des créatures qui s'écriaient « nous ne sommes pas Dieu, mais son ouvrage ». L'homme intérieur se sert de l'autre comme instrument de sa connaissance externe. Moi, cet homme intérieur, moi, esprit, j'ai cette connaissance par le sens corporel. J'ai demandé mon Dieu à l'univers, il m'a répondu « je ne suis pas Dieu, je suis son œuvre ». Mais l'univers n'offre-t-il pas même apparence à quiconque jouit de l'intégrité de ses sens ? Pourquoi donc ne tient-il pas à tous même langage ? Animaux, grands et petits le voient, sans pouvoir l'interroger, en l'absence d'une raison maîtresse qui préside au rapport des sens. Les hommes ont ce pouvoir, afin que les grandeurs invisibles de Dieu soient aperçues par l'intelligence de ses ouvrages. Mais ils cèdent à l'amour des créatures, et devenus leurs esclaves, ils ne peuvent plus être leurs juges. Et elles me répondent qu'à ceux qui les interrogent comme juges, et ce n'est point que leur langage, ou plutôt leur nature, varie, si l'un ne fait que voir, si l'autre, en voyant, interroge. Mais dans leur apparente constance, muette pour celui-ci, elles parlent à celui-là, ou plutôt elles parlent à tous, mais elles ne sont entendues que des hommes qui confrontent ces dispositions sensibles avec le témoignage intérieur de la vérité. Car la vérité me dit, ton Dieu n'est ni le ciel, ni la terre, ni tout autre corps. Et leur nature même dit aux yeux, toute grandeur corporelle est moindre en sa partie qu'en son tout. Tu es supérieur à tout cela. C'est à toi que je parle, ô mon âme, puisque tu donnes à ton corps cette vie végétative que nul corps ne donne à un autre. Mais ton Dieu est la vie même de la vie. Voyez ? Voilà, c'est un bel exemple de la réflexion de saint Augustin sur le voilà sur sa recherche de Dieu. Vous retrouvez un peu toute la dialectique platonicienne. Hein, on cherche Dieu dans les réalités, voilà, qui sont belles, mais leur beauté n'est que le reflet d'une beauté supérieure. Il faut sans arrêt grimper pour arriver jusqu'à cette beauté initiale, mais on découvre que cette beauté initiale, c'est pas en sortant de nous-mêmes qu'on l'atteint, mais c'est en descendant en nous-mêmes, puisque en fait on communique avec elle par le fait qu'on est esprit. Voilà. Et donc c'est dans une sorte, comment on dirait, d'enstase qu'on trouve. Oui, c'est ça. Alors du coup, pas introspection au sens psychologique, mais descente dans la profondeur de son âme. Où on découvre qu'on communique avec celui qui est la cause de notre être, plus facilement que quand on sort de nous-mêmes pour essayer de le retrouver. Et alors, néanmoins, tout ce mouvement d'ascension dialectique, on le retrouvera chez Saint Bonaventure, avec la correspondance entre les sens internes et les sens externes, et en Saint Ignace aussi, qui joue sur cette... correspondance des sens par exemple l'application des sens dans les exercices pour ceux qui les ont fait, eh bien c'est tout à fait cette Donc là, on n'utilise pas les sens pour aller, les sens corporels pour aller au sens spirituel, mais se situant au niveau des sens spirituels, on va appliquer les sens corporels pour leur donner plus d'épaisseur, en quelque sorte, pour plus convaincre psychologiquement de la vérité que l'esprit a découvert, a découverte. Parce que parfois l'esprit, il sait les choses, mais ça, il n'en est pas trop persuadé. Et quand ça passe par le corps, c'est, ça fait plus d'effet, plus total. Ça touche plus la psyché. Voilà, bon, bah écoutez, merci beaucoup.